Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est en effet votre émission littéraire et c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi en ce samedi 15 août 2026 pour une émission très particulière puisqu'il s'agit d'une émission hommage à un romancier qui nous a quittés le 5 août dernier à l'âge de 81 ans. En effet, je veux parler de Didier Decoin, fils du cinéaste Henri Decoin, prix Goncourt 1977 pour son roman John l'Enfer. Il avait d'ailleurs été le président de l'Académie Goncourt entre 2020 et 2024. Aujourd'hui, sur Radion, nous allons vous proposer en nouvelle diffusion un entretien que j'avais enregistré avec Henri Decoin, courant janvier 2012, à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne pour son roman « Une Anglaise à bicyclette », alors paru aux éditions Stock. Didier Decoin était né le 13 mars 1945 à Boulogne-Billancourt. Il est le fils de Juliette Charpenet et du cinéaste Henri Decoin. Il entame une carrière de journaliste dans les années 1960, d'abord à France Soir, puis au Figaro, en collaborant notamment aux pages du supplément littéraire. C'est d'ailleurs au sein de la rédaction du Figaro qu'un de ses collègues découvre le manuscrit de son tout premier roman, Le procès à l'amour, pour l'envoyer à un éditeur, en l'occurrence Le Seuil, qui le publie en 1966. Il a alors 21 ans. Ensuite, Didier Decoin prête sa plume à l'hebdomadaire VSD, aux nouvelles littéraires et s'essaie à la radio sur les ondes d'Europe 1. Après Le procès à l'amour, suivent La mise au monde, Laurence, puis un premier roman américain, Abraham de Brooklyn, couronné par le prix des libraires en 1972. Le succès public et critique viendra plus tard en 1977 avec John l'Enfer, roman vertigineux et délirant, mettant en scène un Cheyenne, laveur de carreaux à New York et qui lui vaut le prix Goncourt et la reconnaissance de ses pairs. Nous allons donc réentendre d'ici quelques secondes l'entretien que j'avais enregistré avec Didier Decoin en janvier 2012 à Dijon. Il évoque, au début de notre échange, la symbolique du chiffre 77. En effet, son père, le cinéaste Henri Decoin, a combattu lors de la Première Guerre mondiale dans l'aviation, notamment dans l'escadrille Guynemer. Et puis Henri Decoin a été abattu par l'aviation allemande. Il avait alors effectivement atterri de manière presque miraculeuse du côté des lignes françaises et il avait alors dénombré 77 impacts de balles. Et 77 va devenir, pour Didier Decoin, un chiffre symbolique.
Il s'est fait descendre par la flaque allemande. Il est arrivé à se cracher dans les lignes françaises, mais vraiment, vraiment limite. Et en descendant de ce qui restait de son avion, qui était à l'époque des machins en bois, en ficelle, en toile, ou dans les arts, il a compté 76 impacts dans l'avion, plus un qu'il en avait un. Lui en avait un dans le dos, ce qui faisait 77. Et c'était tellement miraculeux qu'il s'en soit sorti comme ça, qu'il a... Il m'a dit à moi, dès que j'étais en état de comprendre ce qu'on me disait, que 77 serait le chiffre de ma vie. Et de fait, en 1977, je me suis marié, j'ai eu le prix Goncourt, mon épouse et moi, nous avons mis en marche notre premier bébé. Ça a été vraiment l'année la plus belle de ma vie. J'attends avec impatience 2077. Pourquoi vous riez? Pourquoi je n'y arriverai pas? Moi non plus.
Parlons, si vous le voulez bien, de votre dernier roman paru chez Stock et qui a pour titre « Une Anglaise à bicyclette ». Alors, nous revoilà, en tout cas au tout début de ce roman, nous revoilà à nouveau aux États-Unis et votre amour de l'Amérique a toujours été très fort, notamment au tout début de vos écrits.
Oui, parce que moi, j'ai baigné dans l'univers américain, à la fois parce qu'ayant le père cinéaste que vous avez signalé, j'ai vu beaucoup de films américains qui étaient déjà à l'époque le cinéma par excellence, que je me suis plongé dans les bandes dessinées. Ça a l'air bébête, mais c'est déjà aussi une image d'Amérique, sans Mickey, Dingo, etc. Que j'ai une tante américaine et que voilà, moi, j'ai été baigné par cet univers-là. Et dès que j'ai commencé à écrire, ça a été ma toile de fond, j'allais dire presque instinctive, parce que c'était mon exotisme à moi. Écrire, je ne sais pas écrire sur ce que j'ai sous le nez. Je n'ai pas écrit sur Paris, qui est ma ville, que j'aime, que je trouve magnifique. Il faut toujours que j'ai un décalage entre le stylo et ce que je vois et ce que je décris. Alors, l'Amérique, c'était mon lointain. Donc c'était formidable. Et là, j'ai eu bonheur à y revenir. Mais je suis plus critique aujourd'hui, car ce livre-là s'ouvre sur un massacre qui n'est pas à l'honneur des États-Unis d'Amérique, qui est le fameux, enfin fameux pour moi en tout cas, parce que je le connaissais, le massacre de Wounded Knee, où les tuniques bleues, les soldats américains, ont carrément haché à la mitrailleuse lourde des femmes, des enfants indiens, Sioux Lakota, qui n'avaient rien fait de mal. Et c'est un massacre effroyable.
Donc nous sommes à l'extrême fin du 19e siècle, 1890.
Ouais, l'année de naissance de mon père, d'ailleurs.
Et alors, le roman commence donc par ce massacre. Effectivement, on est dans le thème de la mort. La mort est un fil conducteur.
Oui.
Parce que le photographe, le héros, s'intéresse aussi à la mort comme sujet photographique.
Oui, il s'intéresse au vieux visage ridé,
voilà.
à ce que la nature, à cette façon qu'a la nature de dégrader ce qu'elle a fait de plus beau, de gâcher la beauté. Mais cela dit, c'est une comédie quand même, ce livre. Mais je voulais, comme vous savez, il y a un principe qu'on m'avait appris, c'est que il n'y a rien de pire que de faire un film ou un livre ou ce que vous voulez qui commence dans le sourire par la comédie qui se termine dans la tragédie. Les gens sont furieux qu'on leur fasse ce coup-là, parce que c'est ce que la vie leur fait tous les jours. Et là, j'ai voulu faire le contraire, c'est-à-dire commencer dans la tragédie, dans le drame, dans l'épouvante, pour finir, enfin en tout cas pour avancer dans le sourire et la féerie.
Alors le début du roman, une petite enfant Sioux de 3-4 ans qui, en langue Sioux, s'appelle Iaoui, c'est cela ?
Jeune fille qui rit. Ouais. Ça veut dire jeune fille qui rit.
Et Iaoui est recueillie par une femme qui la confie à des Américains qui vont donc recueillir les rescapés de cette tuerie. Et c'est là qu'arrive le personnage principal qui s'appelle donc Flannery. J'ai oublié son prénom. Jason Flannery. Et Jason se voit confier cette petite fille, puisqu'il est photographe britannique, et on lui demande d'aller déposer ce colis encombrant.
Très encombrant.
Très encombrant, parce qu'elle est merdeuse. Elle est sale.
Personne n'a jamais changé, je veux dire. Pauvre gamine. Vous dites 3-4 ans, elle a même, à mon avis, elle doit avoir moins que ça. Elle est vraiment bébéiforme. Et alors, il faut bien voir où est le Dakota du Sud. C'est plus vers la côte ouest que vers la côte est. On est loin de New York. Et il va falloir, pour entrer en Angleterre, puisqu'il est photographe anglais, qui retraverse l'Amérique et qui passe par New York, d'où partira son paquebot. Donc on lui dit, écoutez, si ça ne vous ennuie pas, vous prenez cette gamine, puis vous la déposerez dans un orphelinat à New York. À l'époque, il y avait tellement d'enfants sauvages, entre guillemets, des enfants des homeless qui étaient dans les rues de New York, les orphelinats pullulaient dans la ville. Donc lui, ramenez-la, et puis voilà. Et donc il va voyager pendant, en wagon-lit et en wagon normal, pendant plusieurs jours et nuits avec cette petite fille avec laquelle il ne peut pas communiquer. Il ne parle pas la même langue. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire ? Et c'est vraiment, j'aime bien que vous employiez le mot colis, parce que c'est un colis. Et puis il est supposé la déposer dans un orphelinat. Il la dépose dans un orphelinat.
Il doit même donner une petite obole.
Oui, une petite obole, ça se fait puisque les sœurs vont garder ce bébé. Et puis, il va prendre son paquebot. Et c'était une époque où il y a eu une extraordinaire tempête de neige et une glaciation sur New York. Et le paquebot pour l'Angleterre ne peut pas quitter l'East River, il est coincé par les glaces. Et Jason Flannery a le temps de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai laissé cette gamine toute. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Je suis un salaud.
Mais on est presque au bord des larmes quand même, quand il dépose cet enfant et qu'il part sans lui donner un baiser, parce que c'est bien là qu'est le remords.
Oui.
C'est que lui revient tout d'un coup la mort de sa femme. Il se dit, mais est-ce que j'ai embrassé le front de ma femme avant?
Oui, il est veuf, effectivement.
Il est veuf, il ne croit plus en Dieu.
Non.
Et tout d'un coup, il se dit, mais est-ce que j'ai embrassé ma femme avant qu'elle ne meure? Et tout d'un coup, horreur, il se dit, est-ce que j'ai embrassé seulement cette petite que j'ai confiée à un orphelinat de bonne sœur?
Donc il va aller la chercher.
Et il retourne donc la chercher.
Il va la voler, entre guillemets, parce que les sœurs ne veulent pas la lui rendre, ça ne se fait pas. Parce qu'ils disent, écoutez, monsieur, c'est beaucoup trop simple, on va faire une course, on dépose la gosse à l'orphelinat, puis on vient la chercher 2 heures après. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il va la kidnapper, et puis l'emmener avec lui. Et alors voilà, ils sont partis sur le paquebot, ils vont traverser l'Atlantique, avec cette petite fille qui ne parle toujours pas, qui est un peu moins merdeuse parce qu'on l'a nettoyée entre-temps. Mais il n'a pas eu d'enfant, lui. Il est des enfants. J'ai adoré avoir... J'ai eu 3 garçons. J'ai adoré ça parce que on est vraiment comme la poule qui a trouvé un couteau. On ne sait pas quoi faire avec les bébés. Nous, enfin, moi, en tout cas. Et en même temps, j'adorais les tripoter, leur donner le bain, changer les couches, etc. Mais j'ai l'impression d'être extraordinairement pâteau, d'être très maladroit, et je m'attendrissais moi-même sur moi-même, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un peu ça qui fait Jason avec cette gaminette. Et puis, il va l'emmener dans son village anglais. Mais là, le problème, c'est quand il arrive en Angleterre, comme il n'a pas d'enfant, les gens vont poser des questions.
Et alors, elle n'est pas blonde, cette petite fille. Ça plaît pas trop. Elle est un peu basanée. Elle a le teint très hâlé.
Elle est cuivrée. Elle est cuivrée. Elle a les cheveux noirs et comment on dit, lisses, secs. Enfin, vous voyez, elle est très, très jolie, mais elle a rien du tout d'une Anglaise. Et alors, d'une espèce... Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'Irlandais qui, à cause de la maladie de la pomme de terre, émigraient aux États-Unis. Donc, Jason, un peu pris de court, dit « Mais c'est une petite Irlandaise que ses parents m'ont confiée dans les rues de New York. » Il faut être gonflé pour faire passer une petite Sioux Lakota, donc cuivrée comme nous disons, pour une Irlandaise à tache de rousseur, blondasse, etc. Mais c'est pas mal, parce que c'est comme ça qu'il va arriver à... Alors ça, c'est ça qui m'intéressait aussi dans le livre. Est-ce qu'on peut intégrer quelqu'un qui est non seulement d'une autre nationalité, mais d'une autre culture, totalement différente, dans un truc aussi rigide que l'Angleterre victorienne, enfin, la fin victorienne?
Oui. Mais c'est aussi une réflexion sur le regard que l'on peut poser sur un étranger.
Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, quand je regarde... C'est vrai, je ne le dis pas du tout par modestie mal placée, mais je crois que j'écris beaucoup trop de livres. Il y en a certains qui doivent être inutiles. Mais presque tous font référence à ça, c'est-à-dire à des personnes qu'on déplace. L'exil est quelque chose qui me touche beaucoup, sans comprendre, sans que je sache pourquoi, parce que j'ai jamais été exilé. J'ai jamais été même en danger d'être exilé. J'ai vécu une enfance dans un cocon, bon. Mais ça me touche beaucoup, les gens qu'on arrache à leur terre. Je suis incapable de déplanter une touffe de chien-dent. Ma femme, qui a les doigts verts et qui jardine très bien, arrache des trucs. Mais elle sait que ça me met dans des états seconds.
Ah bon ?
Je ne supporte pas qu'on déplante. Et donc, cette petite fille qui est déplantée m'intéressait comme m'intéressait dans le roman que j'ai écrit en 70, enfin qui est sorti en 77, qui est le Goncourt de John L'Enfer. C'est aussi des gens déplantés.
Oui, parce que John L'Enfer, c'est un Cheyenne.
C'est un Cheyenne.
Simplement, on explique. Exploite ses talents, puisqu'en fait il n'a pas peur, il n'a aucun vertige, puisqu'il est laveur de carreaux sur les immenses façades des gratte-ciels.
Il est comme une araignée sur les oui. gratte-ciels. Lui est une personne déplacée. La petite jeune fille sociologue urbaine avec laquelle il va avoir une love affair, elle a un problème de vue, elle a un bandeau sur les yeux, pour l'instant elle n'y voit rien du tout. On est aussi, quand on est un voyant et qu'on tombe dans la cécité brusquement, on est une personne déplacée, c'est une personne exilée du regard.
On change d'univers.
On change d'univers. Et le troisième personnage, Ashton Misha, qui est un officier de marine, qui est polonais, est complètement décadré aussi dans ce monde-là. Mais j'ai la passion des gens, enfin la passion et la compassion pour les gens qu'on déplace.
La voix du romancier Didier Decoing, enregistrée en janvier 2012 dans un wagon-livre qui vous a été diffusé sur l'antenne de Radion la même année. Didier Decoing qui nous a quittés le 5 août dernier à l'âge de 81 ans. Alors, au début des années 70, Didier Decoing a travaillé également pour la télévision, dont une adaptation de 5 mars d'Alfred de Vigny et celle d'une série de José Dayan d'après le Comte de Monte Cristo de Dumas père avec Gérard Depardieu. Et il a travaillé également pour le cinéma en tant que scénariste et dialoguiste. Alors ce Monte Cristo cathodique lui vaudra d'ailleurs en 1999 le 7 d'or du meilleur scénario. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'on lui doit Notamment les scénarios de La merveilleuse visite de Marcel Carné en 1974, d'Un bon petit diable de Jean-Claude Brialy, dit comme Icare d'Henri Verneuil, un film porté par Yves Montand, et en 1990 de Dancing Machine, dont il est le co-auteur avec, dans le rôle principal, Alain Delon. Auteur d'une quarantaine d'ouvrages, y compris des essais, Didier Decoin avait troussé quelques excellents romans qui dominent sa production. Relevons parmi eux La femme de chambre du Titanic, en 1991, qui sera adapté au cinéma par l'Espagnol Bigas Luna. L'année suivante, c'est dans un hommage à Lewis Carroll qu'il s'illustrera avec Lewis et Alice, qui s'ouvre sur une épigraphe d'Albert Camus. Ainsi se tournera-t-il vers les époques de sa vie où l'amour de la vie se mêlait au désespoir de vivre. Citons également son superbe hommage à la presqu'île du Cotentin, sa seconde patrie où il a vécu en famille pendant près d'un demi-siècle dans une ancienne maison de pêcheurs à La Hague face au rat Blanchard. Son titre, Avec vue sur la mer, récit récompensé par le prix Henri Kefelec où il écrit « La pluie est la prêtresse de mon pays ». C'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous rendons hommage au romancier Didier Decoin qui nous a quittés le 5 août dernier à l'âge de 81 ans. No news.
I love you.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de nous accompagner jusqu'à midi dans votre émission littéraire sur l'antenne de Radion. Je vous rappelle que nous rendons aujourd'hui hommage au romancier Didier Decoing, prix Goncourt 1977, ex-président de l'Académie Goncourt entre 2020 et 2024. Nous vous proposons donc en nouvelle diffusion l'entretien que nous avions enregistré avec lui à Dijon en 2012 autour de son roman Une Anglaise à bicyclette, alors par aux éditions Stock. Nous allons revenir avec lui notamment sur la langue Sioux. Effectivement, dans son roman Une Anglaise à bicyclette, l'héroïne Emily parle en langue Sioux. Et Jason, le photographe britannique, a le sentiment d'entendre, lorsqu'il perçoit les sonorités de cette langue, autre chose que du langage humain. Je cite « Comme une rivière qui roule des cailloux tout ronds, tout chevelus d'herbe d'eau. » Didier Decoing.
Oui, j'ai entendu parler Sioux. C'est beau. C'est vrai que ça a un côté rocailleux, mouilleux, mouillé. C'est très difficile.
C'est liquide, mais... c'est poétique.
Oui,
ça
en, même,
comme
en
ça.
Même temps, il y a des heures, il y a des saccades, il y a un côté minéral. Ce sont des gens qui correspondent, dont la langue correspond au paysage. C'est-à-dire, ce sont des paysages de rivières, de torrents, et puis c'est aussi des paysages de terre, d'herbes mouillées. Mais ce qui est fascinant pour quelqu'un qui est écrivain, ce que j'ai la prétention d'être, c'est que les Sioux, mais tous les Indiens en général, tous les Amérindiens en général, n'ont pas d'écriture. Ce sont des nations qui n'ont pas un seul texte écrit. Tout se transmet par l'oralité.
C'est une tradition orale.
Et moi, qui travaille principalement avec l'écrit, je suis fasciné de voir comment des peuples entiers ont pu... uniquement avec la parole, sans jamais l'écrire. C'est fascinant. C'est comme si j'étais... ça me fait penser à la petite sirène d'Andersen qui a une queue pour nager dans l'eau, mais qui ne peut pas marcher sur la terre. Vous voyez, c'est cette espèce de... Tiens, il me manque... Donc, c'est une autre forme d'exil, d'ailleurs.
Alors, il n'y a pas de R dans la langue,
non.
Sioux. Et alors, il y a quelque chose, à mon avis, de très important à mentionner. Dans la culture et cette civilisation Sioux, c'est que le cercle est tout... Et tout est cercle. Or, si on prend la bicyclette, finalement, la roue de la bicyclette, et puis le parcours d'Emily, et ah oui, je ne vais pas raconter le dénouement, mais quelque part aussi, on peut dire qu'elle fait une sorte de cercle.
Mais vous avez parfaitement lu ce livre, parce que ça, ce n'est pas dit, il faut le deviner. Mais c'est vrai, c'est un livre circulaire, c'est un livre cerclé, c'est un livre en circonférence, oui. Alors, la première fois qu'Emily, donc ex et oui, qu'il a appelé Emily, mais c'est ce qui représente
la plus grande proximité phonétique.
Voilà. Oui. Monte sur une bicyclette, elle pédale autour d'une table, elle-même qui était même table ronde. On est vraiment dans le. Et j'étais très frappé de ça parce que nous avons nous, je crois en Occident, une vision très différente, c'est-à-dire que nous partons d'un point A pour aller vers un point Z, mais on revient pas au point A. On ne sait pas ce qui se passe après le point Z, mais on ne revient pas au point A. Alors que les Indiens, enfin les Amérindiens, ont cette espèce de sens du circulaire. Et c'est pas mal parce que c'est aussi la notion d'éternité qui est là.
Oui.
Rien ne se perd, rien ne se crée. Je me rappelle un film de Kubrick qui s'appelait 2001, Odyssée de l'espace. C'est vrai, à la fin, il y avait un bébé qui était dans une espèce de boule. Et puis, il y avait un vieillard sur un... Et on se demandait ce que ça voulait dire. Et je pense que c'était ça, déjà. C'est-à-dire que les extrêmes, non seulement se touchent, mais se réunissent pour former des cercles.
Parlons un peu du photographe Jason Flannery. Alors, il est veuf. Bon, il recueille Emily avec beaucoup d'affection et d'amour. Alors, j'ai presque envie de ne pas raconter la suite parce que je voudrais laisser à nos auditrices et auditeurs le plaisir de suivre le destin, parce que j'ai l'impression qu'aussi cette petite fille, c'est un destin qu'elle
va... Oui, c'est un destin.
C'est un destin qu'elle va connaître.
Ben, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire quand même, c'est passer du stade du monsieur qui ne connaît pas la petite fille merdeuse à l'adoption aimante et puis à la protection affectueuse qu'il va exercer sur elle comme un père sur un enfant, et puis on va passer à l'amour vrai. J'ai été très frappé, j'ai adapté pour la télévision Les Misérables, et j'étais très frappé par l'attitude de Jean Valjean vis-à-vis de Cosette. Quand, à la fin du livre, quand Cosette épouse Marius, Valjean a une espèce de jalousie mais monstrueuse vis-à-vis de Marius. Pourquoi ? Parce qu'il est amoureux de Cosette, mais s'interdit d'avoir la moindre relation avec elle parce qu'il s'est positionné comme étant son père adoptif. Alors que, n'ayant aucun lien biologique avec elle, il n'y aurait absolument pas d'inceste. Et j'ai été très très frappé par ça, que Hugo ne résout pas ce nœud-là. Il le pose, il nous le laisse supposer, mais lui n'apporte pas la situation. Et je me suis dit, Jason Flannery, il est dans la même situation. Il peut faire ce qu'il veut avec cette petite fille. Il peut l'épouser. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire dans le livre. Ils vont devenir mariés.
Je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas le dire. Vous avez vendu la mèche.
Il faut y arriver à ce mariage. Oui. Bon, ça ne va pas être commode. Mais c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que quelque part, il venge Jean Valjean. Enfin, c'est compliqué ce que je raconte. Ah. Mais,
non, c'est intéressant.
C'est-à-dire que lui, il va au bout. Je peux toucher à cette jeune fille puisqu'elle ne m'est physiologiquement, biologiquement, elle ne m'est rien.
Il a peut-être moins de morale que Jean Valjean.
Mais il n'y a pas de morale, là. Non, Valjean, le problème de Valjean, c'est qu'il faut se rappeler que quand Hugo écrit Les Misérables, c'est au moment où il perd Léopoldine, sa fille. Et quand il apprend la mort de Léopoldine, il était en rendez-vous galant avec Juliette Drouet à Bordeaux ou tout, je ne sais plus où, enfin loin, et il se dit, si j'avais été près de ma fille, ce ne serait pas arrivé. Ce serait arrivé quand même, ce serait noyé quand même. Mais il va trimballer un énorme remords par rapport à elle. Et quand il écrit Les Misérables, c'est d'abord le portrait d'un... Avant de faire le portrait des Misérables, c'est le portrait d'un père. C'est le portrait d'un père à problème. Un père qui sait pas trop comment se comporter avec sa fille et qui trimballe comme ça des tas de remords. Et si vous déchiffrez Les Misérables avec ce code-là, c'est un livre fascinant, d'une modernité inouïe.
Mais votre photographe, quelque part, il épouse cette enfant adoptive un peu pour oublier sa femme Florence.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est un peu cathartique, quelque
oui,
part.
Oui, c'est totalement cathartique. Non, pour l'oublier et pour la compenser aussi. Ça s'est mal terminé, effectivement, avec Florence, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, et c'est un point très important, mais je ne peux pas m'étendre pendant 150 pages dessus, il ne lui a pas dit adieu. On est des millions à avoir ces remords vis-à-vis... Moi, ma maman, elle est partie, je venais de la quitter. Je suis allé dîner 10 minutes après, elle s'était envolée. Et je ne lui ai même pas dit au revoir, parce que je pensais la revoir le lendemain matin. Vous voyez, c'est un remords idiot, mais j'aurais rien empêché. Mais on a tous comme ça on est des millions à avoir ces remords-là. Et je pense que Jason Flannery l'a, parce qu'il l'adorait, sa femme.
Il avait une manière de faire l'amour qui était particulièrement originale, on peut le dire.
Oui, bien sûr. Elle était escapologiste, c'est-à-dire que c'est comme Houdini, ce sont des femmes, ou des hommes, qui se font ligoter, enchaîner, enfermer dans des boîtes clouées, etc. Et 1, 2, 3, 4, ils en sortent. C'est truqué, bien entendu, mais et quand ils faisaient l'amour, c'était des jeux de bondage, comme on dit, ils se ligotaient mutuellement. Et dans des positions qui devaient être très belles, c'était des jeux de domination, soumission, parfaitement amoureux et réglés, sans danger. Mais c'était quand même très intéressant, ça.
Il y a une image absolument extraordinaire, celle des toiles d'araignée qui ont un rôle important, parce qu'elles sont des attrapeurs de rêves.
Oui. Les Amérindiens fabriquaient, j'en ai un d'ailleurs, un petit objet comme ça, je crois que la plupart des gens connaissent, ce sont des dream catchers, ça ressemble à des toiles d'araignée, on a un petit peu plus primaire, et alors voilà, les rêves viennent se prendre dedans, les cauchemars ne passent pas, ça bloque les cauchemars, et les jolis rêves peuvent passer. Les Indiens croient ça très fort. Et quand on n'a pas de dream catcher, d'attrapeur de rêves sous la main, il faut laisser des toiles d'araignée dans sa maison parce qu'elles font office d'attrapeurs de rêves. C'est-à-dire que les cauchemars vont se coincer, s'engluer dans la toile d'araignée et les jolis rêves iront dans votre lit.
La voix du romancier Didier Decoing, enregistrée en janvier 2012 à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne pour son roman « Une Anglaise à bicyclette » paru aux éditions Stock. Je rappelle que Didier Decoing nous a quittés le 5 août dernier. À l'âge de 81 ans, il avait obtenu le prix Goncourt en 1977 pour John L'Enfer et il avait présidé l'Académie Goncourt entre 2020 et 2024. Nouvelle virgule musicale dans Wagon Livre sur Radion. On se retrouve juste après. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à midi pour cette émission hommage à Didier Decoing.
my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite sur Radion de notre émission hommage au romancier Didier Decoing qui nous a quitté le 5 août dernier à l'âge de 81 ans. Didier de Coin, que nous avions enregistré en 2012 à Dijon autour de son roman Une Anglaise à bicyclette, paru aux éditions Stock, émission que nous rediffusons d'ailleurs en ce samedi 15 août 2026. Didier de Coin a été élu à l'Académie Goncourt au couvert du poète, romancier et éditeur Jean Cayrol. C'était en 1995, juste avant la parution d'un nouveau roman, La promeneuse d'oiseaux. Et en 2020, il a été nommé président de l'institution plus que centenaire, succédant à Bernard Pivot, avant d'en démissionner au printemps 2024. C'est sous sa présidence qu'avait été créée en 2022 une déclinaison de la célèbre récompense littéraire, le prix Goncourt des détenus, soutenu par le Centre national du livre, le CNL, et les services pénitentiaires de l'État, qui permettent à 500 détenus de 40 établissements de lire la quinzaine de romans figurant chaque année sur la première liste tant attendue du Goncourt et de participer activement à une distinction littéraire. Je vous propose d'entendre la suite de l'émission qui a été diffusée courant 2012 avec Didier de Coin autour de son roman Une Anglaise à bicyclette, paru aux éditions Plomb. Et dans ce roman, il est question du monde des fées. Surgit effectivement le monde des fées que la petite Émilie, l'héroïne, cherche à découvrir pour vérifier si ces petites créatures ont une réelle existence. Explication et développement par Didier de Coin.
Oui, en fait, ce que Émilie découvre, quand elle découvre cette histoire de fées, de petite fille, ce qui la renvoie à son enfance à elle, qui croit aux fées, c'est que comme elle vient d'une culture où c'est l'oralité qui compte, elle décide qu'elle va rapporter cette histoire à son photographe de mari, à Jason Flannery, en cadeau, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour elle, de l'avoir sauvée, etc. Donc elle s'empare de cette histoire de fées, qu'elle a l'intention de restituer telle qu'elle. Et puis le doute lui vient. Et ça m'intéresse aussi beaucoup, c'est sa quête. Il faut bien redire qu'il s'agit de photographies prises par deux petites filles, que ces photographies sont sur des plaques en verre, qu'elles ont été montrées à des experts et que tout le monde a dit ce sont des photos qui n'ont pas été truquées, il est impossible de les truquer. Et Émilie a la conviction, pour des tas de raisons, parce qu'elle trouve des éléments, etc., un peu, que ce sont des trucages. Et elle va remonter le fleuve. Et elle va aller jusqu'à l'origine de ces photos et comprendre comment elles ont été faussées. Et se dire, est-ce que je le dis à Conan Doyle ou pas ?
Alors il y a l'écrivain, le père de Sherlock Holmes, apparaît dans le roman. Et Conan Doyle, c'est vrai que c'est un auteur emblématique. Hein, c'est l'auteur presque britannique par excellence.
Ah, tout à fait. Et puis c'est surtout le créateur du personnage le plus pragmatique, le plus rationnel.
C'est ça
qui est étonnant. Mais pourquoi Conan Doyle se met à croire aux fées ? C'est tout simplement parce qu'il a perdu son fils et d'autres proches. Et que l'idée, que je le comprends, hein, que la chair de sa chair puisse être bouffée par des asticots dans un trou, ça ne va pas. Donc il pose la question à des pasteurs anglais. Dites-moi qu'il y a une chose après la mort, et les autres disent Monsieur Doyle, c'est la foi, vous le dit. Oui, mais prouvez-le-moi. Mais on ne peut pas vous le prouver, Monsieur Doyle, c'est une question de foi. Et donc, ça ne lui convient pas. Et il est désespéré, donc il cherche désespérément quelque chose qui va le rassurer, le conforter. Et quand arrive cette histoire de fées, il se dit si ces petites filles ont vu des fées, c'est qu'il y a un autre monde. C'est pas forcément le monde de Dieu dont me parle l'Église anglicane, etc. Mais c'est un autre monde. S'il y a un autre monde, mon fils est peut-être dans cet autre monde. Et cet homme, qui était donc rationnel et pragmatique, bascule complètement dans le spiritisme, mais pour se consoler. Et ce qui est très beau, c'est que les petites filles qui avaient truqué les photos, il faut dire la vérité, elles avaient truqué les photos, à partir du moment où Doyle fait et cause pour elles et dit « mais si ces photos sont authentiques », elles n'osent pas avouer qu'elles ont triché. Elles n'oseront jamais le dire. Et elles sont mortes il n'y a pas très très longtemps. Et l'une d'elles, je crois qu'elles avaient 89 ou 90 ans, l'une d'elles, sur son lit de mort, on lui dit « écoutez, maintenant que vous allez paraître devant votre créateur, dites-nous la vérité. Ces photos que vous aviez faites avec votre cousine, les photos de fées, les 5 photos de fées, c'était du bidon, c'était du pipeau. » Alors, oui, imagine une très très vieille femme à l'agonie. Hein. Alors elle dit « écoutez, la première des photos, mon Dieu, oui, on l'avait truquée, comme la deuxième. » puis je dois bien dire que la troisième aussi, elle était... Ah là là, ainsi que la quatrième. Puis elle marque un temps et elle dit, mais pas la cinquième. Et elle meurt. Et on en est resté là. Et il y a des tas de gens qui sont persuadés qu'il y a quatre photos truquées, mais que la cinquième... Donc il y a encore des gens qui se rassurent en pensant que les faits existent. Et je trouve ça adorable.
Enregistré à Dijon en janvier 2012, Didier Decoin pour son roman Une Anglaise à bicyclette, paru aux éditions Stock. Et aujourd'hui sur Radio, nous rendons hommage à ce romancier prix Goncourt 1977 et président de l'Académie Goncourt entre 2020 et 2024, qui nous a quittés le 5 août dernier à l'âge de 81 ans. Je vous propose un nouvel intermède musical et nous nous retrouvons juste après, toujours avec Didier Decoin sur Radio.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
Si vous prenez l'émission en cours de route, sachez que Wagon Livre rend aujourd'hui hommage au romancier Didier Decoin, prix Goncourt 1977, ex-président de l'Académie Goncourt de 2020 à 2024, qui nous a quittés le 5 août dernier à l'âge de 81 ans. Nous vous proposons aujourd'hui de le réentendre dans un entretien que nous avions enregistré courant janvier 2012 à Dijon, autour de son roman Une Anglaise à bicyclette, paru aux éditions Stock. Il était alors l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Et une thématique récurrente dans ce roman, qui a fait l'objet d'une question que j'ai soumise à Didier Decoin, c'est qu'effectivement, on pouvait relever un thème assez fréquent des haleines. Émilie, l'héroïne, a une haleine qui sent la pomme et le fruit exotique. Et parfois, certaines haleines, dans le roman, exhalent des odeurs de mélasse mélangées de foin coupé. On notera que le souffle d'une jeune fille sent le coquelicot. Et puis, revenons à l'haleine des fées, puisque leur haleine sent le safran, de même que leur sueur et leur petit paix. Didier Decoin.
Oui, alors ça, j'ai trouvé ça... parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux fées. Et alors, elles consomment du safran. Mais c'est évident, c'est une denrée très chère, le safran. Donc, puis c'est un pistil. Donc, c'est normal que voilà. Et je trouve que l'histoire, que quand des fées font des petits pets, ça sent le safran, c'est trop mignon. Je ne veux pas tomber dans le bébéiformisme voir l'infantilisme, mais... Dès qu'on parle de l'Angleterre, on est bien obligé de faire référence à tout ce monde des nursery rhymes, de Peter Pan, de tous ces petits mondes. Les Anglais décryptent beaucoup le monde, notre monde solide et sérieux, avec les yeux de l'enfance. Je relisais récemment les discours de Churchill, et je m'aperçois que dans les heures les plus graves qu'a traversé la Grande-Bretagne, la guerre notamment, il y avait chez Churchill un côté, il gardait une âme d'enfant.
Mais quand bien même il promettait de la
quand bien même il promettait de la sourire. Ouais. Et je me demande si la force de ce pays, qui a quand même tenu tête à l'Allemagne nazie, si la force de ce pays n'est pas justement dans cette référence permanente à l'enfant, puisque l'enfant croit des choses que l'adulte ne veut pas croire, parce que l'adulte se dit c'est pas possible. L'enfant se dit c'est toujours possible. Et Churchill, c'est l'homme qui dit c'est toujours possible. Et c'est pour ça que j'ai cette admiration à la fois pour les Anglais et pour ces petits éléments qui touchent aux fées, qui touchent... Moi, Peter Pan est une histoire qui m'a fait rêver à un point... c'est une merveilleuse histoire. L'enfant qui ne veut pas grandir. Je crois qu'on devrait tous être des Peter Pan.
Alors, vous parlez de Churchill, c'est loin d'être un Peter Pan. On imagine aussi
physiquement.
L'odeur de cigare. Physiquement, hein, c'est clair.
No sport.
L'odeur de cigare et peut-être aussi de whisky. Il y a beaucoup d'odeurs aussi dans le roman. Alors, ça, c'est dans votre
oui,
roman.
Oui, mais vos auditeurs, qui sont aussi les miens en l'occurrence pour l'instant, ne peuvent pas le voir. Mais j'ai un gros nez, comme on dit. Bon, il faut bien qu'il me serve à quelque chose. Et je suis... je suis très sensuel des odeurs. C'est quelque chose que je me sers beaucoup de mon nez. J'ai dû être chien. Autrefois. Ah. Si je suis réincarné, j'ai dû être chien avant. Ou chat, non, plutôt chien. Je peux suivre une. Mais il m'est arrivé j'ai des parfums que j'adore, qui me font presque venir des frissons. Et il m'est arrivé de suivre dans la rue, comme ça, des femmes qui se parfumaient. Un exemple, Youth Dew d'Estée Lauder, c'est un parfum qui me fait grimper au rideau.
Mais par exemple, est-ce que vous êtes déjà rentré dans des pièces lambrissées qui sentaient l'encaustique et la souris?
Ah, tout à fait. L'odeur de la souris, c'est une odeur que je reconnaîtrais entre mille. Oui, mais écoutez, c'est pas du tout pour passer pour un mutant, mais je pense que j'ai une capacité d'odorat qui est très particulière. Et je retrouve des... Moi, c'est ça, ma petite Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'une odeur, tout d'un coup, je repère immédiatement, je me dis, tiens, ça, il y a 40 ans, j'ai senti ça à tel endroit... C'est très très important.
Alors Didier Decoin, le temps tourne. Alors, il faut tout de même que vous expliquiez pour quelles raisons il est imprudent d'offrir une bicyclette à une femme. Ah, oui. Ah ben, c'est le docteur Lefebvre, c'est un ami de notre photographe qui considère qu'il y a des liaisons dangereuses entre la cyclomanie et la sexualité féminine.
Vous savez que c'est vrai, ça. Je veux dire, j'ai lu des ouvrages d'hygiénistes, c'est comme ça qu'on appelait les médecins qui s'occupaient de ça à cette époque, qui prétendaient que les femmes, sans s'en rendre compte au départ, puis ensuite elles le faisaient parce qu'elles trouvaient ça agréable, se masturbaient par le simple fait qu'elles enfourchaient une bicyclette et que la pointe de la selle se redressait d'une certaine façon, et que le frottement des cuisses, etc., etc. Et alors, c'était extrêmement répréhensible pour une femme en Angleterre de faire de la bicyclette. En France, les gens se posaient d'autres questions, les hommes, les médecins. Comment une femme qui fait de la bicyclette doit-elle s'habiller? Doit-elle porter des bloomers? Doit-elle porter des pantalons? Doit-elle porter des jupes spéciales? Et vous voyez la différence de mentalité. Alors, les Anglais, d'un côté, il ne faut pas qu'une femme monte en vélo parce que c'est de la masturbation. Et de l'autre, les Français, comment est-ce qu'une femme sera plus belle sur un vélo? C'est deux mentalités tout à fait différentes.
Alors, il faut reconnaître aussi que même les couturières qui s'adonnent au pédalage intensif sur leur machine à coudre...
Oui, on a fait des hygiénistes anglais, on fait des expériences comme ça, et voilà, je pense qu'ils avaient affaire à... Mais vous savez qu'à l'époque, quand une femme avait des mouvements d'humeur inconsidérés, on disait qu'elle est hystérique, et les médecins avaient un système, ils la masturbaient physiquement pour atténuer comme ça son hypersensualité. C'est très extraordinaire. Et c'est pas vieux. C'est pas vieux. Ça date. C'est la guerre de 14. Alors, les filles, elles rentraient le soir, les vélocipédistes anglaises, elles rentraient le soir et disaient à leur mari: ah, chérie, ce soir, non, je peux pas, c'est une migraine. Alors, le mari se plaignait au médecin: mais ma femme a beaucoup de migraines en ce moment. Et les médecins disent: est-ce qu'elle fait de la bicyclette, votre femme? Oui, pourquoi? Cherchez pas, c'est ça. C'est pas du tout qu'elle fuit le devoir conjugal à cause de la migraine, elle fuit le devoir conjugal parce qu'elle vient déjà de s'envoyer en l'air sur la selle de son vélo.
Alors, ma foi, on retrouve ses craintes dans le roman.
Mais il est formidable, le photographe, parce qu'il laisse, et je ne sais pas s'il y croit d'ailleurs à ce truc-là, il laisse Émilie faire autant de vélo qu'elle veut. La bicyclette, à l'époque, en plus, quand on pense c'était des machines extraordinairement lourdes, encombrantes, pas commodes. C'est formidable de voir une petite jeune femme toute fragile, comme ça, sur ces espèces de gros. C'était des percherons des vélos, si vous voulez.
Didier Decoin, je vous remercie d'avoir été notre invité ce soir à bord du 57e numéro de Wagon Livre, je rappelle.
J'adore le titre de l'émission. Wagon Livre, ça, vous me comblez.
Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre roman, donc Une Anglaise à bicyclette aux éditions Stock, un formidable tremplin vers le romanesque à l'état pur, selon la quatrième de couverture, mais je confirme, on est dans le romanesque à l'état pur, et un roman à déconseiller aux bitro-cosophobes. Bonsoir Didier Decoin.
Bonsoir à vous.
C'est la fin de votre Wagon Livre en ce samedi 15 août 2026 sur Radio, une émission hommage à Didier Decoin qui nous a quittés à l'âge de 81 ans le 5 août dernier. Si vous souhaitez réentendre cette émission, bien sûr, www.yannickpetit.fr. L'émission est disponible à l'écoute et en podcast. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui de 11h à midi sur l'antenne de votre radio locale. Je glisse une information importante puisqu'elle concerne un très beau et très riche salon du livre. C'est dans une semaine, samedi 22 août 2026, de 10h à 18h. C'est à l'église Saint-Pierre de Toussy, dans Lyon. C'est la 9e édition de la journée du livre d'histoire, romans, documents, bandes dessinées, livres jeunesse. Thématique, bien sûr, autour de l'histoire. La présidente du salon est l'historienne Cécile Berly, qui a fait paraître récemment aux éditions Passé Composé Olympe de Gouges, l'autre Voltaire, et l'invité d'honneur de cette 9e édition de Tous Historiques est Vincent Crouzet pour Le jour où je suis devenu espion aux éditions de l'Observatoire. Il y aura des tables rondes, j'en animerai deux déjà dans la matinée. Je mentionne celle qu'animera Bernard Lecomte à 14h30, c'est au 6 étoiles de Toussy. Rencontre avec Vincent Crouzet et Alexandre Melnick. animé par Bernard Lecomte, ancien rédacteur en chef du Figaro magazine. Bernard Lecomte qui fait paraître d'ailleurs un nouvel ouvrage aux éditions Perrin qui a pour titre « La chute de l'Empire rouge, de la guerre froide à Vladimir Poutine ». Et puis à 16h30, entretien entre Marie-Hélène Bellac qui signe une biographie de George Sand aux éditions Perrin et la présidente du Salon 2026 de Tous Historiques, Cécile Berly. Pour ma part, j'animerai une rencontre à 10h15 au cinéma de Toussy avec Béatrix Delaunoy pour un ouvrage paru chez Plon intitulé « Ils les ont tant aimés, les présidents et leur mère », Béatrix Delaunoy, journaliste et biographe. Et j'animerai ensuite à 11h une autre rencontre débat avec la journaliste du Monde, Laure Gasparotto, spécialiste du vin depuis plus de 20 ans, pour son ouvrage « Quand l'Orient inventait le vin ». Je rappelle, c'est de 10h à 18h dans l'église fortifiée de Toussy. L'entrée est libre. C'est la 9e édition de Toussy Historique, journée du livre d'histoire. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain, toujours à 11h sur Radion.